En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Jerzy Grotowski, une figure de proue du théâtre mondial du XXe siècle. L'UNESCO a déclaré et parrainé 2009 Annie Grotowski à l'occasion du cinquantenaire de la fondation du célèbre théâtre laboratoire Grotowski de Wrocław en Pologne. Paris a rendu un hommage solennel à ce grand réformateur du théâtre moderne. Un colloque international fut organisé durant plusieurs jours dans le cadre de l'année Grotowski 2009 sous les auspices de l'UNESCO par l'Université de Paris, Sorbonne et de l'Institut Grotowski à Wrocław. Le Collège de France a dédié une journée particulière en hommage à Jerzy Grotowski pour qui fut créé en 1997 grâce à l'initiative de Marc Fumaroli de l'Académie française et professeur au Collège de France, une chaire d'anthropologie théâtrale, une discipline nouvelle dans les sciences humaines dont Grotowski fut l'initiateur. Canal Académie retransmet ici l'essentiel des communications du colloque international Grotowski au Collège de France le mardi 20 octobre 2009. Se sont prononcées plusieurs personnalités, principalement du monde du théâtre. Cette journée a été inaugurée par Marc Fumaroli, ensemble avec l'ambassadeur de Pologne en France, son Excellence Thomas Orlowski, et Ludwig Flaschen, le cofondateur du Théâtre Laboratoire, qui fut le plus proche collaborateur de Grotowski durant les 25 ans d'existence du théâtre, de 1959 à 1984. Le directeur de l'Institut Grotowski à Wrocław, Jaroslav Fret, introduit la séance. Nous écouterons ces quelques mots de bienvenue avant de laisser la parole à Marc Fumaroli.
Mesdames, Messieurs, bonjour.
Comme je ne parle pas français,
donc je vais
ouvrir cette journée.
Znajdujemy się w miejscu szczególnym.
Nous trouvons dans un endroit particulier.
W Collège de France.
À Collège de France.
To było naszym snem, aby właśnie w tym miejscu zrealizować kolokwium poświęcone Jerzemu Grotowskiemu.
C'était notre rêve de réaliser ici précisément le colloque consacré à Grotowski.
Od początku myśląc o Paryżu i o wydarzeniach paryskich, myśleliśmy o Collège de France, myśleliśmy o panu profesorze Marku Fumaroli.
Et dès le début, en pensant à Paris, aux manifestations de Paris, nous avons pensé au Collège de France, monsieur le professeur Fumaroli.
Drodzy Państwo, dzięki jego otwartości, o której będziemy tutaj mówić i będziemy mu dziękować jeszcze w sposób szczególny.
Grâce à son accueil, à son ouverture, dont on va parler encore plus particulièrement.
Jesteśmy dzisiaj tutaj.
Nous nous trouvons ici aujourd'hui.
Chciałem panu profesorowi szczególnie serdecznie podziękować.
Je voulais vous remercier particulièrement chaleureusement et vous accueillir chez vous.
Także w miejscu Jerzego Grotowskiego.
Qui était aussi le lieu de Jerzy Grotowski.
Tę dzisiejszą sesję rozpoczniemy.
Cette conférence va être commencée, ce colloque.
Od uroczystości odznaczenia pana profesora medalem zasłużony dla kultury polskiej.
Par la médaille de la réception par monsieur Fumaroli de une médaille polonaise.
Chciałem w tym momencie przywitać pana ambasadora Tomasza Orłowskiego.
Et donc je voudrais bien accueillir ici monsieur l'ambassadeur Tomasz Orłowski,
który oficjalnie dokona dekoracji tym odznaczeniem.
Qui officiellement donnera cette décoration à monsieur Fumaroli.
I chciałem przywitać pana Ludwika Flaschena, który także z tej okazji wypowie laudację.
Ainsi que monsieur Ludwik Flaschen, qui à cette occasion a préparé une laudation.
I w ten sposób rozpoczniemy nasze kolokwium, które bezpośrednio pan profesor Masłowski poprowadzi pierwszą sesję, w której profesor Fumaroli i profesor Leszek Olankiewicz zabiorą głos.
Et ainsi on va ouvrir notre colloque qui va débuter sous ma présidence par les exposés de monsieur Fumaroli et monsieur Olankiewicz.
L'ambassadeur de Pologne, Tomasz Orlowski, procéda à la remise de la médaille du mérite à la culture de la République de Pologne à monsieur Marc Fumaroli. Ensuite, Ludwig Flaschen prend la parole en forme d'éloge à Marc Fumaroli.
Je vais dire pour commencer mon bref discours que je suis très gêné parce que mon français est loin de celui de l'Académie française. Et Marc Fumaroli, on sait qui est, sa présence dans la culture française est très forte depuis longtemps. Je vais dire seulement, cher Marc, quelques mots sur une étrange rencontre entre M. Fumaroli et Jerzy Grotowski au Théâtre Laboratoire. C'est toute une histoire. Ça a commencé, il me semble, il y a quelques décennies à Holstebro, dans le théâtre Odin Theatret d'Eugenio Barba, où sûrement la curiosité a amené M. Fumaroli pour être témoin d'un séminaire, d'un atelier d'acteur grotowskien. Et c'est comme ça que ça commençait. Et c'est tout un parcours, tout un cheminement pendant les décennies de la présence de M. Marc Fumaroli dans la vie et des grotowskiens, pour ainsi dire. M. Marc Fumaroli est membre d'honneur de la tribu grotowski. Je n'ai pas une distinction spéciale, un diplôme pour le faire, mais en guise d'un patriarche, un des derniers survivants de la génération de fondateurs, de pères fondateurs du théâtre laboratoire, il me semble que j'ai le droit, au nom de Grotowski, tous mes collègues, attribués à M. Fumaroli, à vous, cher Marc, cher ami, ce titre. Je vais dire que Marc Fumaroli a assuré un magnifique départ de Jerzy Grotowski, de notre dimension ontologique, pour ainsi dire. Tout le monde le sait que c'est grâce à lui, il était créé dans cet établissement, on sait qu'est-ce que c'est cet établissement, la chaire de l'anthropologie des théâtres, dont un unique enseignant, unique professeur était Jerzy Grotowski. Et c'était fantastique, c'était un grand événement culturel en France, qui a dépassé les cadres purement académiques. Et c'était un très beau départ pour Grotowski. C'est ici qu'il a prononcé ses derniers mots en public dans cette dimension ontologique avant de partir dans une autre. C'est quelque chose d'étrange aussi, parce qu'il faut le dire que la France, pour Grotowski, c'était magnifique, magnifique caisse de résonance. Mais la majorité de l'opinion théâtrale était, comment vous dire, hostile même. C'était la terre de rigoureux Bertolt Brecht. Et M. Fumaroli, avec une sensibilité particulière, en quelque sorte en contre-courant, a fait une brèche dans ce brechtisme français. Il a très bien compris l'esprit de Grotowski, fantastiquement bien. C'est vous qui direz mieux tout ça, vous le savez beaucoup mieux, cher Marc, mais il me semble qu'être romantique en France, ce n'est pas tout à fait comme il faut, parce que le romantisme polonais, comme le romantisme allemand, c'est autre chose que le romantisme français. Disons, le romantisme français, pour nous, est trop rationnel. Il lui manque de folie. Le romantisme français a commencé avec Rimbaud, en vérité. Et je vais dire ici, c'est un peu nationaliste, parce qu'on est nationaliste. Le romantisme polonais a précédé le romantisme français. Ça veut dire cette folie, la rébellion, ça commençait beaucoup avant la génération Rimbaud. Alors, c'était exceptionnel parce que c'est aussi, en quelque sorte, s'engager du côté d'un romantique polonais, quelqu'un de trouble. On ne sait pas ce qui c'est tout ça. Ce n'est pas clair. C'est peut-être dangereux de toute façon pour la raison cartésienne. C'est peut-être même scandaleux. Alors, c'est ça l'exception française. C'est M. Fumaroli. C'est ça l'exception française dans le grotowskisme mondial. Merci, Marc, d'être avec nous. Merci d'avoir fait cet effort extraordinaire en effectuant un vol entre les continents au-dessus de l'Atlantique en étant ici, voilà, en personne. Merci beaucoup.
Suit la communication de Marc Fumaroli qui rappelle les grands moments de sa relation et de son amitié avec Jerzy Grotowski depuis la première rencontre au séminaire à l'Odinteatret à Holstebro, au Danemark, en 1969. Marc Fumaroli.
Alors évidemment, je suis très touché d'avoir été associé à cette journée Jerzy Grotowski dans les murs de ce collège où il a été le second Polonais après un grand romantique, effectivement, Adam Mickiewicz, a occupé une chaire d'enseignement. Alors, vous avez raison, probablement, il y a là une sorte de continuité entre le grand poète du début du XIXe siècle et puis le grand théoricien et praticien d'un théâtre très étrange de la période d'après-guerre, d'après-seconde guerre mondiale. Alors évidemment, je suis aussi tout étonné de recevoir une décoration très imméritée du ministère de la Culture polonaise et de Monsieur l'ambassadeur, mais je l'accepte très volontiers. Elle est très jolie, cette médaille, et j'en ferai grand état. Je dois aussi une vive gratitude à l'Institut Grotowski de Wrocław, qui m'a permis de faire ce bref aller-retour Paris-New York pour prendre aujourd'hui la parole à la mémoire de Grotowski dans cette maison où, très brièvement, malheureusement, pour à peu près 9 mois, notre grand ami est devenu aussi mon collègue. Alors, toutes ces faveurs, cette invitation, cette médaille et aussi ce soutien de l'Institut Grotowski, je les dois, M. Flachen vient de le rappeler, à l'amitié et à la confiance que notre ami disparu m'a accordé d'emblée. Cette amitié, vous l'avez rappelé, mon cher Ludwig, est née au cours d'un séminaire mémorable que Grotowski tint en 1969, c'est donc au siècle dernier, dans des temps très très anciens, à l'Odinteatret d'Holstebro, dans le Jutland, donc au Danemark, chez son ancien assistant Eugenio Barba, avec qui j'étais lié depuis quelques années, dont je suivais le travail, qui m'avait passionné, auquel j'avais consacré plusieurs essais, et qui m'avait beaucoup parlé naturellement de Grotowski, puisque c'était lui qui avait changé le cours de sa vie en l'incitant à devenir lui-même metteur en scène de théâtre pauvre. Et je n'ai pas donc pas résisté à l'invitation qu'il m'a faite de venir assister à ce séminaire de Grotowski à Holstebro. Séminaire qui a été, je vais le rappeler, qui a été peuplé d'Américains, de jeunes Américains, mais aussi de metteurs en scène, disons, de off-Broadway, et qui a été l'occasion peut-être de la première rencontre de Grotowski avec ce monde américain qu'il ne connaissait pas. Il connaissait la France, puisqu'il est déjà venu plusieurs fois, mais enfin, il venait de cette Europe de l'Est cloisonnée, enfermée, Je crois que c'est le premier contact qu'il a eu avec l'Amérique qui devait jouer ensuite un si grand rôle dans son évolution d'artiste. Pendant ce séminaire, naturellement, j'ai découvert un personnage tout à fait extraordinaire, un peu effrayant à certains égards, surtout au début. Je découvris aussi que cet homme extraordinaire et un peu effrayant avait parmi tous ses dons le don de l'amitié. Une amitié que je dirais philosophique, hein, l'amitié dont parle Sénèque ou de parle Montaigne, et non pas le sentimental de ce mot qui aujourd'hui est tellement galvaudé, on est ami de tout le monde, c'est-à-dire on est ami de personne. Tandis que là, c'était autre chose, c'est un lien philosophique qui repose sur un certain nombre de convictions profondes partagées. Sinon, ça n'est pas de l'amitié, c'est simplement des relations. Je remarquais d'ailleurs que Grotowski accordait cette amitié à des degrés divers. Ce n'était pas toujours le même type d'amitié qu'il accordait, même si elle était chaque fois très fidèle, et de telle manière qu'on reçoive cette amitié comme un honneur et comme un engagement. À quelques degrés que ce fût, en effet, on se savait par là prendre rang, si modeste que fût ce rang. Bon, parfois, il m'est arrivé souvent de traduire de ses textes, parce qu'il parlait très très bien le français, il avait une très très bonne connaissance du français, très surprenante même, parce qu'il lisait, il avait une culture française immense, mais quand il s'agissait de dicter, il est évident qu'il y avait des difficultés, des obscurités, et donc je me suis souvent proposé pour éclaircir les choses, et j'étais très heureux d'ailleurs parce qu'il me disait « Vous m'avez mieux compris que je ne le fais moi-même, vous êtes vraiment à l'intérieur de ma pensée », alors j'étais tout de même un peu assez heureux, et ça correspondait justement au sentiment que j'avais que pour lui, la collaboration, l'amitié, ça supposait, comme j'ai dit tout à l'heure, une profonde complicité. Il fallait avoir des principes en commun et des principes que tout le monde ne partage pas. Eh bien, lui, il vous donnait en quelque sorte le sentiment qu'il vous mettait quelque part sur une échelle verticale et invisible, dont il avait sans doute, comme le Jacob de la Bible, il détenait en quelque sorte le point d'ancrage, mais cela donnait à son amitié une valeur d'élection. Elle assurait l'élu qu'il n'était pas entièrement indigne de cette espèce d'axe du monde sur lequel il avait lui-même, à l'évidence, monté et descendu les échevaux plusieurs fois, les barreaux plutôt, plusieurs fois, tant souterrain que céleste. Ce séminaire de Holstebro a été mémorable, non pas seulement pour moi. Il fut, je le répète, le premier contact difficile de Grotowski avec un groupe de jeunes acteurs américains qui étaient particulièrement enthousiastes parce que c'était le moment où le premier, comment appelait-on ça, cette espèce de... C'était sous Kennedy, c'était au temps de la présidence de Kennedy, et les Américains avaient lancé une navigation vers la Lune. Et leurs hommes avaient débarqué sur la Lune. Alors les Américains dans un état d'extase extraordinaire, et les Européens étaient un peu agacés par l'importance inouïe qu'ils donnaient à cet exploit technologique. Je me souviens qu'une journaliste américaine, Margaret Croydon, avait pris la tête de la révolte en disant « Vous imposez une discipline atroce, vous prenez un ton extraordinairement magistral, on voit que vous venez de l'Est, vous sentez le stalinisme, c'est pas possible de travailler avec quelqu'un qui a des mœurs aussi étrangères aux nôtres. » Alors ce départ, ça semblait partir très mal. Et en effet, Grotowski était habillé de noir, il avait sa cravate noire, il avait des yeux protégés par d'immenses lunettes noires, et il imposait des exercices de plus en plus difficiles, qui durait parfois jusqu'à l'aube et qui laissait ces pauvres acteurs qui étaient venus pour cela pourtant à demi épuisés, et ce qui fait qu'il y a eu un grand malentendu. Avec une grande diplomatie, une merveilleuse diplomatie que j'ai observée avec beaucoup d'intérêt, Grotowski a réussi non seulement à ramener ces jeunes gens sous son autorité, mais à convertir littéralement leur chef, si j'ose dire, Margaret Croydon, et celle-ci est devenue une de ses amies les plus fidèles, les plus passionnées, et elle a fait en particulier lorsque vous-même, mon cher Ludwig, et toute la troupe, vous êtes venu à New York, Margaret a écrit un des livres, des articles superbes, dont le New York Times, et au même moment, un grand poète américain, enfin une femme qui s'appelait Elizabeth Hardick, a publié dans le New York Review of Books un très long article d'une très grande beauté, qui est peut-être un des plus beaux textes qu'on ait écrit sur le prince Constant et sur Apocalypsis, et du coup, évidemment, Grotowski est devenu une star du jour au lendemain. Donc vous voyez que là, on assiste à une sorte d'échappée de l'Europe, et cette échappée me paraît avoir joué le rôle déterminant sur la grande rupture dans la vie de Grotowski entre le moment où il a fait des spectacles avec des spectateurs et le moment où il a cessé vouloir des spectateurs et où il s'est consacré entièrement au rapport entre le metteur en scène, ou plus exactement le formateur d'acteurs, et l'acteur. Alors pour ma part, je dois l'amitié qui me lie à Grotowski, et donc ces faveurs que vous voulez bien m'accorder aujourd'hui, à l'amour que personnellement j'ai toujours porté aux arts visuels, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, d'architecture, et naturellement de théâtre, qui sont un peu la synthèse de tous les arts visuels, et à la méfiance que j'ai éprouvée très tôt envers les technologies modernes de la communication et envers la prolifération des images préfabriquées où elles nous plongent, non sans danger d'une véritable aliénation et pas seulement d'un simple divertissement de notre personnalité profonde. Et au fond, ce qui m'a attiré vers la manière dont Grotowski concevait le théâtre et surtout la formation de l'acteur, c'est qu'elle éliminait littéralement toute technologie. C'était véritablement, en faisant appel corps humain et à l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus original, si j'ose dire, dépouillée de toutes les prothèses dont la science et la technique veulent la doter, qu'il cherchait à établir un rapport intense entre les acteurs eux-mêmes, d'ailleurs, dans la mesure où ils dialoguent entre eux, et puis éventuellement entre ces acteurs et les spectateurs lorsqu'ils auraient à les rencontrer. Alors c'est ce souci élémentaire, si j'ose dire, cette prise de conscience que le progrès, les technologies, toutes ces merveilleuses histoires de communication avaient des dommages collatéraux très importants, et qu'il fallait leur trouver des compensations, que nous avons fondé en quelque sorte la complicité dont je parlais tout à l'heure, bien que lui fût un réformateur du théâtre, qui était passé par des expériences complètement inconnues de moi, et que personnellement j'étais plutôt un historien des arts et des lettres, et qui simplement avait eu affaire surtout à des périodes anciennes, où justement les technologies modernes n'entraient pas en ligne de compte et où le rapport avec les arts était peut-être beaucoup plus intense qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Alors, cette invitation que vous m'avez faite à témoigner en quelque sorte, alors que plusieurs d'entre vous, et nommément mon voisin, M. Flachen, sont infiniment plus avertis que moi des voies, des moyens, des étapes de la démarche de Grotowski, de sa biographie artistique, si je veux dire, de sa vie dans l'art, comme on l'a intitulé le livre de Stanislavski. C'est aussi, on l'a dit à juste titre, c'est parce que j'ai joué un rôle dans son élection au Collège de France. C'est un rôle relativement mineur en réalité, parce que les représentations que le théâtre laboratoire avait multipliées à Paris dans les années 60-70, commençant d'ailleurs par Nancy, si mes souvenirs sont bons, ont attaché au nom de Grotowski une aura de légende qui était encore très vive à l'époque où, où cette idée m'est venue, et que n'avait pas tellement entamé, en fin de compte, sa relative occultation depuis de nombreuses années, en Californie d'abord, à l'université de Irvine, très lointaine, et d'où les nouvelles, évidemment, ne venaient certainement pas, et puis en Toscane, au workshop de Pontedera, lieu aussi très mystérieux et très peu fécond en communication sociale. Peter Brook, Jacques Lang ont soutenu mon initiative et je n'eus donc pas trop de peine à convaincre un certain nombre de mes collègues à envisager cette candidature, surtout que Pierre Boulez venait de quitter le collège, il avait pris sa retraite, et donc on cherchait un illustre artiste pour occuper cette chaire qui, en général, bien qu'elle soit un peu à part, est très goûtée dans cette maison. Mais selon les usages de cette maison, une fois que la candidature était envisagée et peut-être même un peu engagée, une fois que le rapporteur, c'est-à-dire moi, était désigné pour défendre cette candidature devant l'Assemblée des professeurs, il faut toujours, en toutes circonstances, et cela depuis trois siècles, il faut au candidat faire campagne en deux étapes. La première, pour faire agréer l'intitulé de la chaire. La seconde, pour faire valoir qu'il est le meilleur candidat à cette chaire dont il a lui-même dessiné les contours. Ça peut paraître un peu absurde, mais ce sont deux étapes traditionnelles et qui d'ailleurs fonctionnent très très bien, en général. Ça supposait donc deux cycles de visites. Il y a à peu près 50 professeurs ici. C'était quand même une entreprise assez pesante. Et auprès, évidemment, de ceux des membres de l'Assemblée qui souhaitaient connaître l'impétrant. Et Grotowski refusa de se prévaloir, comme il aurait pu le faire, de son terrible état de santé qui, en fait, ne lui donner que quelques heures de vie plénière par jour, peut-être même parfois moins que cela, et il fit campagne avec une assiduité que je qualifierais de stoïque. Ses voyages, Florence, Paris et retour, ses rencontres nombreuses, réparties sur peu de mois, le soumirent à une épreuve physique et morale dont il ne laissait rien paraître. Mario Biagini, ici présent, pourvoyer à l'intendance, en coulisses, avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'efficacité, jamais démenti. Et pour ma part, je devais voir Grotowski à chacun de ses séjours, aussi souvent qu'il le fallait, tantôt à l'Académie polonaise, rue Lauriston, je crois, ou à l'hôtel L'Aiglon, au boulevard Raspail, pour laquelle il avait une mystérieuse affinité. Mais j'ai cru comprendre depuis que parce qu'il y a eu des gens très bizarres, du genre Lautréamont, qui ont pris chambre là. Et donc c'était pour lui un lieu qui avait quelque aura. Donc on se retrouvait dans un des restaurants du quartier, il y en a beaucoup, pour rédiger d'abord le programme scientifique, ce fameux programme d'anthropologie théâtrale, où nous avons beaucoup insisté d'ailleurs sur les deux lignes de l'histoire du théâtre, celle qui, selon Grotowski, passe par le théâtre chinois, mais qui passe en France par le paradoxe sur le comédien de Diderot, et puis l'autre tradition qui passe par Stanislavski et qui passe aussi par un certain nombre de maîtres russes du début du XXe siècle, l'une étant une tradition où l'acteur en quelque sorte, s'absente de son propre rôle pour pouvoir mieux le gouverner et l'imposer au public, et l'autre au contraire, qui implique que l'acteur se confesse en quelque sorte dans son rôle et exerce sur le public une sorte de contagion que, naturellement, alors donc vous avez parlé de brechtisme, c'est évidemment là-dessus que nous avons construit cette anthropologie théâtrale et en montrant que en allant en Afrique, en allant en Haïti, en allant en Inde, on pouvait en quelque sorte retrouver ces deux grandes tendances à travers toute l'histoire du théâtre, sous quelque forme que ce soit. Il fut particulièrement ému pendant ces rencontres par la visite qu'il fit à mon très regretté collègue Bernard Franck, qui reste d'ailleurs, maintenant qu'il est mort, une grande autorité sur la religion shintoïste, surtout les débuts de la religion shintoïste, donc les premières apparitions de cette religion dans l'archipel japonais, et puis aussi du bouddhisme tel qu'il est devenu au Japon. Eh bien, entre ces deux hommes, il s'est passé quelque chose, et quand j'ai revu Grotowski, il était très ému de ce que Franck lui avait dit, et Franck aussi a été très impressionné par les échanges qu'ils ont eus, et il est devenu un de mes plus fidèles alliés pour pousser la candidature de Grotowski, qui est passée naturellement dans les deux épreuves, au moment de la présentation de la chaire et au moment de la présentation du candidat, sans difficulté. Alors si vous vous en souvenez, beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute, la leçon inaugurale de la chaire a eu lieu au Gouffre du Nord, et cela fut, de la part de Yégé, un tour de force extraordinaire, parce qu'il a parlé presque plusieurs heures, et je pense qu'il paya très chèrement cette extraordinaire performance. Il était son meilleur médecin, il savait très bien comment extorquer à son corps de plus en plus fatigué, épuisé, le peu d'énergie qu'il contenait, et il arrivait à en faire une sorte d'éclat, mais un éclat qui était suivi probablement d'une nuit profonde. Chacune de ses démarches lui faisait dépenser l'énergie spirituelle qu'il avait auparavant accumulée, concentrée avec une volonté de faire, mais sa santé physique se vengeait ensuite, sans pitié, d'avoir été en quelque sorte trompé. Cette réapparition publique à Paris, vous l'avez dit, Ludwig, c'était très juste, contre toute attente, parce que beaucoup de gens croyaient qu'il avait disparu et qu'on ne le reverrait jamais, après tant d'années de retrait à Irvine et à Pontedera, n'en fut pas moins une sorte de résurrection de Grotowski qui attira des foules, non seulement à la leçon inaugurale, mais aux différentes conférences qu'il donna ensuite, en particulier au conservatoire d'art dramatique. Et du coup, on retrouva une certaine continuité avec le succès qui avait accompagné la présentation du Prince Constant et de Apocalypsis Cum Figuris dans la Sainte-Chapelle, il me semble bien.
C'est Apocalypsis, oui, c'est là
que je l'ai vu. Alors là, je pars dans un autre point de vue, qui est celui de nos rapports personnels, tout au moins ce que je peux me permettre d'en dire, et je commencerai par citer un mot fameux, peut-être pas si fameux aujourd'hui, mais il l'a été longtemps, de Bossuet, qui s'exclame « Pauvre, que vous êtes riche, riche, que vous êtes pauvre !» Et je mettrai volontiers ce paradoxe de l'évêque de Meaux en exergue de tous nos dialogues, et peut-être aussi, si je peux me permettre d'adopter ce point de vue qui est personnel, à la continuité de la recherche de Grotowski. C'était en tout cas sur ce paradoxe que je m'entendais avec lui à demi-mot, malgré, évidemment, les mondes qui nous séparaient. C'est de ce même paradoxe que je voudrais tirer avec vous aujourd'hui quelques conséquences pour mieux comprendre la continuité de sa démarche en dépit des ruptures qui ont paru la caractériser. Bossuet entend par pauvre, dans cette extraordinaire formule, non pas ceux qui n'ont pas d'argent, c'est probablement aussi cela, enfin ce qu'il entend par pauvre essentiellement, ce sont les gens qui sont tenus de trouver en eux-mêmes les énergies qui leur sont refusées à l'extérieur, et il entend par riche ceux qui, gâtés d'emblée de l'extérieur, en profitent pour se dispenser de recourir à leurs énergies propres et à leurs énergies profondes. Le premier palier de la recherche de Grotowski à Opole, le théâtre pauvre, puisque c'est avec ce titre qu'il a résumé en quelque sorte cette expérience qu'il avait faite avec vous, mon cher Ludwig, je le compare dans l'histoire de l'art du théâtre à ce que fut la peinture pauvre de Cézanne à Aix, dans l'histoire de l'art de peindre. Pauvre de tout ce que l'impressionnisme et le naturalisme étaient excès de richesse extérieure, Cézanne prit le parti de tourner le dos à cette richesse qui d'ailleurs lui échappait et de retrouver au fond de sa propre pauvreté et devant la nature nue les sources d'une simplicité et d'une grandeur oubliées. Ce changement de cap ne se bornait pas à rompre avec l'art riche parisien. Implicitement, il rompait aussi avec le monde européen d'alors, avec ses expositions universelles, avec sa puissance industrielle, avec ses vastes ressources techniques. Il rendait implicitement en artiste, qui n'avait rien à voir avec la politique, mais il rendait néanmoins évidente la disproportion inquiétante et peut-être même tragique entre cette richesse euphorique et orgueilleuse du début du XXe siècle et puis la pauvreté spirituelle qui, au même moment, faisait marcher tout ce monde droit vers la destruction réciproque de 14-18. Son art pauvre, l'art pauvre de Cézanne, renversait ce désordre. Il corrigeait ce point de vue aveugle. Et rien d'étonnant si dans le sillage de ce peintre de la petite ville obscure d'Aix, que tout le monde avait oublié à l'époque, qui était un peu l'opolé de la période, eh bien, rien d'étonnant si dans le sillage de Cézanne, des peintres et des sculpteurs, qu'on a appelés modernistes après coup, se mirent à l'école des arts dits primitifs et recherchèrent, admirant leur ingénuité artisanale, des raccourcis formels qui corrigeaient la trop riche virtuosité optique de l'art européen tardif, tant académique d'ailleurs que d'avant-garde. Il n'est pas sûr que le modernisme n'ait pas très vite d'ailleurs trahi le testament de Cézanne et inauguré un néo-académisme tout aussi pauvrement riche que l'ancien. Alors le théâtre pauvre, tel que l'a pratiqué Grotowski à Opole, est contemporain, lui aussi, de la guerre froide qui succéda à la Seconde Guerre mondiale. Cette façon de concevoir le théâtre, évidée de tout superflu, évidée de tout luxe, de toute richesse, concentrée sur l'acteur et sur l'éveil de ses énergies oubliées, il fut, lui aussi, d'Acropolis au Prince Constant et Apocalypsis, une critique radicale du monde européen, richissime de puissance industrielle et de propagande politique, mais spirituellement si pauvre que seul le souvenir récent de la monstruosité des massacres de la Seconde Guerre mondiale le retenait au bord d'un apocalyptique affrontement. Je ne prétends pas expliquer ni le renoncement de Grotowski à créer des spectacles après Apocalypsis Figuris, puisqu'il a cessé effectivement de nous présenter des œuvres telles que les 5 ou 6 que nous avons eu la chance de voir, ni de proposer une exégèse des expressions diverses comme théâtre des sources, théâtre comme véhicule, qui ont remplacé alors dans son discours l'expression théâtre pauvre. Tout ce que je puis dire, c'est qu'en allant jusqu'à renoncer au public de spectateurs très restreint, déjà, de l'ex-théâtre pauvre, il allait toujours plus loin dans le sens de cette pauvreté des riches dont parle Bossuet, et à contre-courant, à contrepoids de ce que Bossuet entend par « richesse des pauvres ». Dans les deux cas, il s'agit de la vraie grandeur et de la vraie dignité humaine, ou plutôt de la vraie humilité humaine, travestie et dérobée dans l'extériorité bavarde du comédien social, et c'est très important chez Grotowski cette différence entre le comédien et l'acteur, ou recherchée et retrouvée dans le silence de l'intériorité de l'acteur. En congédiant les spectateurs,
en congédiant le spectacle même, Grotowski voulut concentrer toutes ses propres énergies qui lui restaient, parce que je crois qu'il y avait aussi le sentiment qu'il était très gravement malade, qu'on lui donnait peu de temps à vivre. Il a réussi à vivre plus de 10 ans après un tel diagnostic, mais ça a retenti quand même sur, disons, la focalisation de ses efforts, la focalisation de sa recherche. Et là, évidemment, il a concentré tout ce qui lui restait d'énergie, d'intelligence et d'expérience sur l'homme en tant qu'acteur, dépassant sa condition ordinaire de comédien employé par le théâtre d'un monde trop riche pour savoir le prix de la pauvreté et de la liberté que cette pauvreté autorise. Dans les phases successives d'une recherche commencée dans l'oppression de la guerre froide, dans le cadre très étroit que lui laissait la Pologne stalinienne, sa découverte progressive de la libre Amérique, et c'est à ce moment-là que j'y reviens, a joué un rôle, à mon sens, déterminant. Aussi déterminant que ses longues et mystérieuses pérégrinations dans l'Inde millénaire, l'une d'ailleurs s'éclairant des autres. Est-ce un hasard si l'héritier spirituel qu'il s'est choisi est Thomas Richards, un Américain avec lequel il avait travaillé à Irvine? Son immersion prolongée en Amérique, au début de laquelle j'ai assisté avec vous, et qui était plutôt méfiante au départ, l'a confirmé dans l'intuition que son théâtre pauvre ne concernait plus seulement l'Europe des idéologies meurtrières ou l'histoire de l'art dramatique européen, mais qu'il avait désormais à répondre à une situation historique nouvelle que personne n'a aperçue que très tard, après la chute du mur de Berlin, mais que, je crois, Grotowski a entrevu bien avant, c'est-à-dire la globalisation irrésistible de la démocratie commerciale américaine, qui, effectivement, est le plus résilient de tous les régimes politiques modernes. La démocratie américaine, c'est la liberté politique. Mais c'est aussi la caverne moderne de Platon, à une immense échelle, un immense peuple de spectateurs, que d'innombrables écrans, chaque jour plus nombreux, plus maniables, plus séduisants, plus variés, plus perfectionnés, suspendent littéralement à la prolifération rapide d'images éphémères préfabriquées par une technologie savamment commercialisée. Richesse dévorante, à la fois divertissante au sens de Pascal et aliénante au sens de Marx, dont nous sommes tous bénéficiaires et dont nous sommes tous dépendants aujourd'hui, quoique rien ne nous interdise, bien sûr, comme le philosophe platonicien qui sort à l'air libre, de nous éveiller du demi-sommeil et des rêves où nous plonge la caserne et d'en sortir. Avec toutes ces incontestables commodités, cette prolifération moderne des images encourage et accélère notre propension paresseuse à nous décharger de nous-mêmes et à laisser à basse tension notre mémoire, notre imagination, notre jugement, notre volonté, soulagée en quelque sorte par des prothèses extérieures et concurrentes par-dessus le marché, qui nous offrent en abondance dans le marché des images et sur lesquelles il nous est loisible de choisir notre lifestyle et de passer de l'un à l'autre sans trop d'efforts, même si ça s'accompagne de beaucoup d'agitation. Il est vrai que cette société riche du conditionnement soft par l'image proliférante est aussi une société de seekers, de chercheurs, cherchant dans toutes sortes de directions à échapper à son propre conditionnement moyen et à sortir de la caverne. Comme il y a large choix de spectacles dans la caverne, il y a aussi du jeu, des interstices à l'intérieur qui peut permettre ou qui laisse croire que l'on peut en sortir. Mais sur le seuil de la caverne, il y a aussi un autre marché qui nous attend, c'est l'offre riche, plus ou moins clandestine, de divers moyens commercialisés d'échapper au conditionnement collectif et peut-être souvent plus redoutable encore et plus asservissant que le conditionnement moyen lui-même. Face à cette pauvre richesse, dont il ne méconnaissait nullement les mérites relatifs, je crois que il faut être très important de ne pas voir dans ces analyses une condamnation de la société américaine. C'est une des sociétés les plus remarquables que l'histoire de l'humanité ait connue. Il n'est pas question de la remettre en cause du point de vue politique. Mais il y a d'autres points de vue sur lesquels on peut l'examiner. Et là, effectivement, retrouver des catégories critiques qui ont déjà été utilisées contre d'autres systèmes politiques beaucoup moins admirable et beaucoup moins innocent que celui-là. Et il me semble que Grotowski a beaucoup médité cette question et qu'il a plus que jamais parié pour la pauvreté riche, si j'ose dire, même si celle-ci ne pouvait être recherchée et retrouvée que par le petit nombre, à l'écart de la pauvre richesse et des spectacles dont elle s'étourdit ou dont elle se délecte. Plus que jamais, il a fondé cette pauvreté riche, non sur quelque inédite spéculation New Age, mais sur les riches sciences de l'homme intérieur dont dispose ou que nous ont léguées par tradition, les sages des sociétés pauvres, antérieures aux richesses de la société moderne et ignorées de celle-ci. Il ne s'agissait pas pour lui de ressusciter en historien des idées ou des formes les exercices spirituels du stoïcisme antique qu'il admirait, ou de l'hésychasme byzantin qu'il connaissait mieux que personne, ni de se livrer à des reconstitutions archéologiques qu'aurait pu lui permettre son expertise d'anthropologue acquise sur place, en Haïti, en Chine, en Inde, au Bénin, au Moyen-Orient ou même en Amérique du Sud, mais de relire et d'intégrer ces anciens savoirs, savoir sur le corps, mais savoir aussi sur l'âme, à sa propre expérience personnelle de l'éveil méthodique des énergies dormantes dans l'arrière-conscience de l'acteur sur le théâtre du monde. Le problème était devenu pour lui de créer des centres nerveux, des centres sociaux, enfin des petites institutions plutôt que des centres nerveux, où seraient recueillies et retrouvées vivantes ces diverses traditions et où elles deviendraient le patrimoine d'acteurs modernes, nés sans doute dans la riche caverne des techniques modernes de spectacle, mais d'autant plus affranchis de celles-ci qu'ils seraient au fait, beaucoup plus par compensation que par négation ou par refus, des techniques libératrices du corps et de l'âme élaborées dans des temps beaucoup plus pauvres que les nôtres. Tous les savoirs pratiques sur l'homme et sur son fonctionnement à haute tension, accumulés dans les sociétés plus pauvres riches que les nôtres, riches pauvres, tension devait être, avant qu'il ne soit trop tard, recueilli, revécu, expérimenté par des acteurs investis d'une sorte de sacerdoce compensatoire. L'histoire du théâtre européen, même d'avant-garde, ne constituait plus à ses yeux qu'un chapitre parmi d'autres de l'encyclopédie globale et mondiale des méthodes par lesquelles l'homme, ne se contentant pas de la basse tension quotidienne de survie, quel que soit le régime politique, s'est mise en posture de se dépasser sans recourir à la folie de la guerre, à la fureur de la révolution politique ou au raccourci des hallucinogènes ou des drogues. On ne sort pas du temps et du spectacle illusoire par l'agitation ou par la hâte, mais par l'assaise d'une sagesse qui n'ignore rien des voies par lesquelles le monde s'emploie à se passer d'elle, ni des méthodes par lesquelles on échappe au conditionnement mondain. Chez ce maître terriblement exigeant de sagesse, de sacrifice, qui au fond avait foi que l'humanité ne se réduisait pas à des formes de vie à basse tension, si j'ose dire, comme j'ai employé cette expression plusieurs fois, chez cet homme qui était habité dès l'enfance, par une vision et une vocation généreuse, que je dirais presque rédemptrice, il y avait une immense douceur et un humour dénué de tout idéalisme, de tout sentimentalisme, quelqu'un qui, en quelque sorte, pouvait faire peur au premier abord, mais qui, au second, révélait quelque chose de profondément bon. C'est quelqu'un qui voulait, en fait, la grandeur, mais sans la violence. Il ne suffit donc pas de le célébrer. C'est bien de le célébrer, mais il faut accomplir son testament. Dans les nombreuses séances au cours desquelles nous avons élaboré son programme d'enseignement au collège, je crois avoir compris comment il concevait la synergie entre cette chaire d'anthropologie théâtrale ici, au collège, et puis le workshop de Thomas Richard et de notre ami Mario à Pontedera. Il savait que peu de temps lui restait pour dessiner cette complémentarité, pour en faire le modèle de sa survie. Mais la visée de cette chaire, où serait analysé et comparé du point de vue théâtral le patrimoine mondial de la pauvreté riche, tant religieuse d'ailleurs que profane, restait inséparable à ses yeux de l'atelier expérimental où de jeunes acteurs tireraient parti de ces traditions pour échapper aux stéréotypes du spectacle commercial globalisé et multiplié, j'ose dire, avec une telle puissance d'influence telle que nous le constatons tous les jours aujourd'hui. C'est de ce système à double foyer qu'il attendait, en quelque sorte, la perpétuation du sens de sa propre vie. Et si l'on veut lui rendre hommage et exécuter son testament, il faut non seulement retrouver ce sens, mais il faut reconstituer cette synergie entre recherche anthropologique et formation de l'acteur, dont il a lui-même donné l'exemple et la formule dans ces dernières années.
Vous venez d'entendre Marc Fumaroli de l'Académie française rendant un hommage à Jerzy Grotowski à l'occasion de la journée Grotowski au Collège de France. À ce colloque dédié à Jerzy Grotowski en octobre 2009, intervenaient également d'autres éminents spécialistes et connaisseurs du théâtre laboratoire de Wrocław. Pour n'en citer que quelques-uns, le professeur Leszek Kolankiewicz de l'Université de Varsovie sur la culture vaudou haïtienne dans l'anthropologie théâtrale de Jerzy Grotowski. Ensuite, Jean-Pierre Thibaudat, critique de théâtre et conseiller artistique du festival Passage de Nancy, ou Mario Biagini du Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards à Pontedera, Italie, qui évoqua les 13 dernières années avec Grotowski. Ludwig Flaschen termina la journée avec une communication sur les tribulations du théâtre laboratoire. Un grand moment de l'année Grotowski à Paris fut la soirée au Théâtre des Bouffes du Nord, qui fit salle comble. Peter Brook, son directeur de renommée internationale, reçut la médaille Gloria Artis, qui lui fut remise par le représentant du ministre de la Culture de Pologne. Ludwig Flaschen avait inauguré la cérémonie par un discours sur l'amitié artistique ayant uni Peter Brook et Jerzy Grotowski. Dans une longue allocution, Peter Brook soulignait la dimension historique de ce compagnonnage d'armes associant théâtre et sagesse. La soirée fut conclue par Georges Banu, professeur à la Sorbonne.